20h40 à Paris.
Le débat du jour.
Nathanaël Vitran.
Un centimètre dans le pénis, c'est un kilomètre dans la tête.
L'homme, aujourd'hui, est castré, c'est-à-dire que la femme, en allant chercher le revenu, joue le rôle traditionnel du mâle.
Le seul modèle masculin acceptable dans cette société, c'est un homme avec des valeurs féminines. On n'a plus le droit d'être un homme.
L'homme est perdu, il ne sait plus sa place. Il y a des générations sacrifiées qui sont des hommes moumounes, c'est-à-dire qui ont peur.
L'homme moumoune perdu, déstabilisé dans une société où les femmes s'affirment, un mouvement de réaction qui dépasse largement les rangs des groupuscules masculinistes. Pourtant, l'affaire Weinstein aux États-Unis, celle des femmes de ménage de la gare du Nord, entre autres, rappelle que les femmes, quel que soit leur milieu, leurs conditions sociales, vivent toujours dans un monde pensé et dirigé par des hommes. Ces affaires ont eu au moins le mérite de donner un nouvel écho aux revendications féministes. La parole des femmes ne s'est pas libérée, mais on a peut-être enfin recommencé à lui prêter une oreille attentive. Parler de féminisme, c'est aussi parler en creux de masculinité. Alors faut-il repenser la virilité? C'est notre débat du jour. Soyez les bienvenus.
RFI.
Et pour en débattre, j'ai le plaisir d'accueillir en studio Titiou Lecoq. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste, vous avez récemment publié Libéré, au féminin pluriel, Libéré, le combat féministe gagne devant le panier de linge sale. Face à vous, Patrick Jean, bonsoir.
Bonsoir.
Et Patrick Jean, vous êtes belge, documentariste, vous avez notamment réalisé La domination masculine sortie en 2009, documentaire dont on a entendu un court extrait en introduction, et vous avez publié en 2015 Les hommes veulent-ils l'égalité? Merci à tous les deux d'être avec nous. D'abord, les hommes ont-ils raison d'être inquiets pour leurs privilèges? Est-ce que défendre la cause des femmes, c'est nécessairement demander des sacrifices aux hommes, Titiou Lecoq?
Oui, alors le but c'est de demander que ce qui était les privilèges de quelques-uns deviennent les droits de tous et toutes. Donc alors est-ce qu'on considère que quand on passe d'un privilège à un droit, on perd vraiment quelque chose? C'est pas dit, mais je comprends qu'il y a eu quelque chose de l'ordre de la crispation sur effet oui, on va perdre ceux qui sont en position dominante. Pour qu'il y ait des dominants, faut qu'il y ait des dominés, si on demande à ce que tout le monde soit sur un pied d'égalité, ils ont l'impression de perdre. En vrai, on ne va pas leur enlever de droits. C'est-à-dire que c'est pas l'égalité, c'est pas comme un gâteau et on aura une part plus petite, etc. Et je suis profondément convaincue dans la sphère notamment personnelle, familiale, amoureuse, que ça tend plutôt vers quelque chose, une évolution bénéfique pour les hommes.
Patrick Jean.
Oh, pour moi, c'est très clair. Ce qu'on appelle l'empowerment des femmes, c'est-à-dire le fait qu'on augmente le pouvoir des femmes, nécessite le disempowerment des hommes, c'est-à-dire une baisse du pouvoir des hommes. Si vous prenez une assemblée politique, au départ elle est occupée à 100% par des hommes, et chaque fois que les femmes prennent des places, ça veut dire que les sièges sont libérés par des hommes. Le temps de travail à la maison, les travaux domestiques, les tâches domestiques, les heures qui sont passées par l'un ne sont pas passées par l'autre. Donc quand on les répartit, l'homme perd du temps de loisir, ou du temps pour son travail, ou pour aller boire un verre avec ses amis. Et c'est dans tous les domaines de la vie, c'est comme ça. Ça veut dire que nous, les hommes, et on pourrait même parler de privilèges à différents niveaux, nous, les hommes blancs hétérosexuels, nous avons énormément de privilèges, et pour aller vers l'égalité, il faut qu'on abandonne ces privilèges, et donc qu'on abandonne des choses qui étaient à la fois injustes, mais aussi très confortables.
Titiou Lecoq, dans votre livre, vous écrivez « La lutte des femmes pour les droits était noble, il s'agissait dans la conscience collective de s'élever, d'acquérir une dignité, de devenir citoyenne à part entière, et d'obtenir la liberté de jouir de son corps et de sa vie. Le chemin inverse est moins séduisant. »
Oui, mais il faut le faire. C'est mon argument quand je m'adresse aux hommes, notamment sur les tâches domestiques, qui est de dire, c'est un peu l'empowerment inverse. À l'heure actuelle, vous n'êtes pas vraiment chez vous dans cette maison, puisque vous ne savez pas où sont tous les produits, vous ne la nettoyez pas, vous ne la rangez pas. Allez-y, quoi. Prenez le pouvoir chez vous, prenez l'éponge. Et moi, j'aimerais que les hommes se disent, mais oui, mais bien sûr, mais je veux absolument de ce pouvoir-là. Et je pense que c'est là où on a atteint sur l'évolution des droits des femmes. On sait qu'on a les droits, classiques. Mais, systématiquement, ça s'est fait sur l'alignement sur le modèle masculin. C'est très frappant dans tous les secteurs et qu'il y a un moment pour arriver vraiment à égalité, ça va pas être que juste les femmes s'alignent sur les hommes, il va falloir que les hommes aussi s'alignent sur le modèle féminin.
Et ça en veut l'occurrence, dire quoi concrètement à la maison?
Ça veut dire participer aux tâches ménagères, aller au-delà de participer, se dire c'est ma maison, c'est ma vaisselle, c'est mon linge, c'est mes enfants, et oui, voilà, je fais concrètement. Et il y a aussi un rapport de pouvoir parce que je pense que chez les femmes, il y a une idée de je m'occupe de la maison, c'est pas forcément super, mais j'en tire une forme de pouvoir. C'est mon espace, au moins je décide. Ça se voit très bien, elles font les tâches domestiques, elles décident aussi de la décoration intérieure. Et ben là, il y a aussi des choses à revoir en termes d'égalité.
On va y revenir hein, sur le rôle des femmes dans ce changement de paradigme aussi pour les hommes. Patrick Jean, vous avez aussi écrit sur cette question. Vous dites qu'il est de bon ton pour les hommes de se dire favorable à l'égalité femmes-hommes. Pourquoi oui, juste de bon ton?
Oui, c'est très à la mode. C'est très à la mode de s'afficher aujourd'hui pour des hommes et de dire « je suis féministe », etc. Mais bon, le dire, c'est bien. Après, la question, c'est quel privilège on est prêt à abandonner. Et là, quand on pose la question, en général, il n'y a plus personne. Donc vous avez beaucoup d'hommes qui vont vous expliquer que le patriarcat, c'est pas bien, que la domination, c'est pas bien, mais que les vrais méchants dominants, ce sont toujours les autres. Alors c'est pour les uns, ça va être les gens dans le tiers-monde, ça va être les musulmans, ça va être les pauvres, mais c'est jamais moi. Alors il y avait une sociologue qui disait « les hommes ont tendance à dire « toutes les femmes sont dominées, sauf la mienne ». Et en réalité, moi aussi je ressens ça. Mais si c'est faux pour les autres, c'est faux pour moi aussi. Donc la question qui se pose à moi en tant qu'homme, c'est quel est cet angle mort ? Quelle est cette zone où en fait je continue à jouir impunément de privilèges que je pourrais abolir, en sachant qu'il y a des privilèges que je ne peux pas abolir individuellement. Ça ne peut être que le résultat d'un travail politique. Par exemple, faire les tâches ménagères, ou ne pas les faire plutôt, c'est un privilège que je peux abolir en faisant les tâches ménagères. En revanche, quand je mets ma voiture dans un parking souterrain à 4 heures du matin, j'ai peur de tout, sauf de l'agression sexuelle. Alors que les femmes, évidemment, ont très peur de l'agression sexuelle, parce qu'on sait très bien que dans les transports en commun, il y a du harcèlement, etc. Ce privilège-là, je ne peux pas l'abolir individuellement. C'est le résultat d'un travail politique qui doit se faire collectivement. Et c'est là toute la difficulté. Et le problème, évidemment, c'est que beaucoup d'hommes, mais on pourrait dire beaucoup de blancs, beaucoup d'hétérosexuels, nous sommes en résistance, arc-boutés sur nos privilèges, encore une fois, parce que ça nous met dans une position qui est tellement favorable qu'on ne veut pas la quitter.
Cette hypocrisie, vous l'avez aussi ressentie, Tito Lecoq ?
Oui, mais ça va au-delà de l'hypocrisie. Moi, quand je travaillais sur mon livre, à chaque fois, c'est toujours le cas là pendant la promo, les hommes me disent « Ah oui, alors chez moi, vraiment, ça se passe pas comme ça. Alors moi, vraiment, je fais quasiment tout. » Et je sais qu'ils sont sincères, et parce que j'ai vu les statistiques. Quand on fait les statistiques, entre le ressenti et le réellement fait, il y a un écart énorme. En fait, les hommes qui ont l'impression d'être à égalité chez eux font un tiers des tâches domestiques. C'est ce que disent les statistiques. Voilà, c'est comme ça, c'est mathématique. Donc, je pense que juste ils ne se rendent pas compte que c'est même pas de l'hypocrisie. C'est vraiment, et quand on n'a jamais été en position de dominer, on ne peut pas percevoir effectivement toutes ces traces de domination. Mais comme moi, j'ai mis du temps en tant que femme à me rendre compte de ça, parce que juste, j'étais pas un homme et je ne savais pas ce que c'était aller dans la rue sans, effectivement, se prendre une main aux fesses, avoir des regards insistants, etc. Je ne connaissais pas cette position. Il a fallu que je réfléchisse et je me dise « Ah oui, ah mais c'est pas pareil quand on est un homme dans la rue. » Donc voilà, donc inverser le point de vue est quelque chose de très compliqué.
Patrick Jean, vous avez tourné La domination masculine il y a bientôt 10 ans. Est-ce que vous trouvez que les mentalités ont évolué en 10 ans, que les hommes ont pris conscience de cette domination masculine dont ils profitent ?
Alors, oui et non. C'est très difficile de dire si on progresse ou si on régresse. Parce qu'en réalité, très souvent, sur du court terme, 10 ans, c'est du court terme, l'histoire du patriarcat, c'est 200 000 ans, hein, si on en croit des anthropologues comme Françoise Héritier. 200 millénaires, donc 10 ans, c'est rien. On voit que, par exemple, en France, médiatiquement, on a beaucoup évolué. Il y a 10 ans, c'était un non-sujet. On ne parlait pas du problème de la domination masculine, de l'inégalité salariale, ça n'intéressait absolument personne. Aujourd'hui, la question des violences faites aux femmes, de l'inégalité, c'est en haut, c'est à la une des journaux quasiment chaque semaine. Donc voilà un progrès très important en 10 ans. Mais on voit bien qu'en dans la même période, dans ces 10 ans, sur des questions par exemple comme l'avortement, on a beaucoup régressé en France. Donc c'est très paradoxal. À la fois, on peut progresser sur un sujet, régresser sur un autre. Donc c'est sur le long terme qu'on verra à quelle vitesse on avance. Évidemment, à notre goût, tous les deux, je pense, on avance beaucoup trop lentement et on voudrait que ça se passe instantanément. Malheureusement, encore une fois, les résistances sont très importantes.
Oui, mais voilà, je pense que ça s'explique comme ça. C'est que plus on avance, plus effectivement la contre-réaction, enfin c'est normal, c'est toujours comme ça, se crispe. Donc on a les deux extrêmes en même temps et voilà, et on sait qu'a priori, on ira quand même vers plus d'égalité. Mais du coup, c'est pas étonnant qu'il y ait un discours, un contre-discours aussi violent.
Alors, on parle souvent du modèle de la femme idéale, tel qu'on nous le présente dans les magazines à grands coups de Photoshop, ou les mamans parfaites qui se mettent en scène sur les réseaux sociaux, vous en parlez dans votre livre également. Est-ce qu'il y a encore un modèle masculin idéal ou présenté comme tel aujourd'hui ?
Il y a des normes. Il y a des normes qui sont très claires et qui sont très archaïque, en fait, qui continue à l'être. Alors, à chaque époque, la masculinité, la virilité, elle évolue. Il faut arrêter de penser que la virilité, c'est la même chose à toutes les époques. Elle est très différente. Par exemple, à la cour de Louis XIV, les aristocrates ont une virilité extrêmement présente, mais qui se réalise sous forme de perruques, de maquillage et de hauts talons. Mais à la même époque, évidemment, dans le milieu paysan, ce n'est pas la même chose. Et la virilité, à notre époque, par exemple, ou dans une autre société, ce n'est pas la même chose. Par contre, ce qui est constant, c'est que, on pourrait le définir comme ça d'ailleurs, la virilité, ce sont les caractéristiques des membres du groupe masculin qui domine le groupe féminin. C'est appartenir au groupe des hommes, et ce qui est commun à toutes les sociétés, c'est qu'il y a une hiérarchie, que les hommes ont le pouvoir. Et si on prend une société comme la société française, par exemple, mais c'est valable pour d'autres sociétés, c'est dans le domaine privé, public, politique, culturel, économique, dans tous les domaines, de manière tant symbolique que matérielle.
C'est quoi le modèle masculin de 2017, Titu Lecoq ? Il y en a un ?
J'ai l'impression que, en tout cas en France, ça dépend beaucoup des milieux sociaux, socio-économiques. C'est-à-dire qu'il y a... Moi, dans mon milieu, qu'on pourrait qualifier de bobo, il y a une espèce de modèle masculin, justement, de l'homme qui va se dire féministe, qui va s'occuper des enfants, etc., qui est un vrai modèle d'homme, de forme de virilité. Mais en vrai, quand on regarde, oui, ils vont s'occuper des enfants, c'est-à-dire qu'ils vont jouer avec les enfants, ils vont faire toutes les tâches qui sont « cool ». Ça, c'est un truc frappant dans les statistiques. En fait, quand les hommes participent dans la maison avec les enfants, ils font ce qui est socialement valorisant. C'est-à-dire plutôt s'occuper du jardin parce que c'est à l'extérieur, cuisiner mais parce qu'il y a les amis qui viennent à la maison. Ça, c'est le nouveau modèle viril. Je cuisine. Mais c'est pas je cuisine tous les jours le plat de pâtes qui est un peu chiant à faire. C'est je cuisine parce que je vais faire un bon plat le samedi soir parce que les amis viennent et que tout le monde va me dire que c'est délicieux.
Mais quand on regarde les mouvements de réaction que vous évoquiez l'un et l'autre tout à l'heure, ce sont encore des modèles masculins dominants encore très différents. Le mâle alpha, par exemple, qu'on voit défendre par les jeunes internautes sur les sites jeuxvideo.com, ce genre de choses. Sur les forums, Éric Zemmour, qui défend aussi un modèle qui parle, de, je crois que dans votre livre, vous avez un extrait de Jean Gabin comme étant le modèle masculin français par excellence. Comment est-ce qu'on explique que ces modèles-là, encore aujourd'hui, soient défendus, alors certes pas par tout le monde, mais par des gens qui sont, par définition, pas des mal-alpha. Éric Zemmour, c'est ni Clint Eastwood, ni Jean Gabin.
Mais c'est ça qui est terrible, c'est que c'est, si on prend jeux vidéo, ils ne correspondent pas à l'idéal auquel ils veulent. En fait, cet idéal viril les fait souffrir. Que pourrait se dire, bah, très bien, prenons-nous les mains avec les féministes, c'est super, on est d'accord, cet idéal est pourri et rend tout le monde malheureux. Mais non, ils le défendent quand même, alors qu'ils en souffrent, alors que ça leur donne, voilà, une norme de virilité qui est juste inaccessible. Ça, pour moi, c'est assez mystérieux comme mécanisme.
Le point commun, c'est le pouvoir, quand même, hein. Parce que ce que ces hommes-là décrivent, c'est toujours le pouvoir. Alors que ce soit le pouvoir par la force des muscles, des armes, ou le pouvoir par une forme de pseudo-intellectualisme chez Zemmour, etc. C'est toujours les hommes qui sont sur le devant de la scène et qui estiment que la virilité doit être présente, elle doit être dominante, elle doit être écrasante, et les femmes doivent être dans une position hiérarchique inférieure. C'est ça le point commun. Après, le principe de la pensée réactionnaire, c'est toujours de s'appuyer sur un fantasme du passé, parce que c'est un passé qui n'a jamais existé, c'est un passé à la fois révolu et fantasmatique. C'est le passé de l'époque où il faisait chaud en été, froid en hiver, où les trains arrivaient à l'heure et où tout le monde était heureux. Mais ce passé n'a jamais existé, évidemment. Voilà, c'est une pensée réactionnaire qui est très bête, que ce soit chez Finkielkraut, chez Zemmour et d'autres, avec de très jolies phrases et de très jolis mots, ou bien chez les types qu'on retrouve en haut des grues, les SOS Papa, etc., bon, qui sont moins malins. Grosso modo, c'est la même idéologie, c'est l'idée de freiner la société qui va vers plus d'égalité, à la fois entre les hommes et les femmes, entre les blancs et les noirs, et pour revenir à un modèle, le modèle des grands-parents de l'époque où c'était tellement formidable.
Ce qui est aussi intéressant et que vous décrivez à la fois dans votre livre Titu Lecoq et dans votre documentaire Patrick Jean, c'est que les femmes sont parfois complices de ce modèle dominant qui les opprime.
Ah oui, bah oui, ça il y en a toujours. Mais moi, j'en parle beaucoup sur la représentation de soi, sur les réseaux sociaux, sur Internet, etc. À savoir, notamment, un réseau comme Instagram qui n'est que de la photo. Donc, c'est vraiment de l'image, il n'y a pas d'analyse. Et où les femmes, majoritairement, se mettent en scène dans, en fait, je me suis rendu compte, même si ça a l'air très moderne et que les apparts sont très jolis, un rôle de maîtresse de maison, quoi. On ne les voit jamais travailler. Des femmes au travail sur Instagram, ça n'existe pas. Donc, elles font les compotes maison, elles ont un super appart. Donc, évidemment, elles renforcent un modèle et en plus elle le renforce en l'esthétisant. C'est là où c'est doublement traître. C'est-à-dire que c'est bien d'être une femme au foyer, mais surtout c'est une esthétique, c'est un art de vivre. C'est avec un retour. C'est là où aussi le mouvement écolo parfois tend à ça, une espèce de retour à, alors c'est ce que vous disiez, sur un état primitif, fantasmatique qui n'a jamais existé, à savoir les vraies valeurs. Et donc les vraies valeurs pour une femme, ça serait juste de s'occuper de ses enfants et de ne rien faire d'autre. Et donc de les nourrir du mieux possible et de surtout ne pas se réaliser en tant qu'individu. Ça serait au final de se sacrifier pour les enfants.
Patrick Jean, dans votre documentaire, il y a une séquence de speed dating et une femme a cette phrase assez terrible « J'aime bien quand un homme me domine ».
Mais c'est-à-dire que dans un processus de domination, les personnes dominées, on peut pas leur en vouloir, elles sont en mode survie. Et pour être, quand on est en mode survie, eh bien on essaie de trouver sa place à l'intérieur d'un système qui vous opprime mais que vous ne pouvez pas renverser parce que vous avez la sensation qu'il est impossible de faire cette révolution-là. Et puis, il faut bien le dire, tous les membres des groupes opprimés, que ce soit par la couleur de peau, par le sexe, quand ils se révoltent, ça a un coût. Et donc la réaction, elle est là pour les cogner le plus fort possible, pour faire un exemple. Et donc c'est comme ça qu'on insulte les féministes, qu'on les ridiculise, ou qu'on s'en prend, en France par exemple aujourd'hui, aux minorités racisées, quand elles se réunissent pendant 2 heures en disant on va discuter entre nous sans la présence du dominant, tout à coup ça fait un scandale abominable, alors que les gens qui se plaignent ne seraient pas allés à cette réunion. Mais donc on voit bien que quand l'opprimé essaie de se prendre en main pour renverser le système qui l'opprime, ça a un coût énorme. Donc, il est logique qu'une majorité des opprimés ne trouve pas la force de le faire parce que c'est extrêmement compliqué, c'est une violence inouïe.
Alors, à défaut de faire changer les hommes d'aujourd'hui, on peut essayer de construire un modèle masculin différent. C'est un peu ce dont vous parlez dans votre blog et ailleurs, Titiou Lecoq. Comment est-ce qu'on peut élever les jeunes garçons pour qu'ils soient capables de choisir leur modèle de virilité?
Alors pendant très longtemps, c'est-à-dire avant d'avoir des enfants, j'étais très sur les jouets. Alors il faut que les catalogues de jouets ne soient pas genrés, que ce soit pas le bleu, le rose, que la cuisine, la petite dinette, ce soit aussi pour les garçons. En ayant des enfants et en voyant comment l'école est une fabrique à petits garçons et à petites filles, ben un point absolument dément. Enfin, je pensais pas que ça était ça l'école. J'en suis un peu revenue de mon histoire de catalogue de jouets et j'ai commencé à réfléchir sur la question des émotions. C'est-à-dire, en faisant le travail de déconstruction du féminin dans mon livre, forcément se pose la question de la déconstruction du masculin. Et notamment le fait de se préoccuper en permanence des autres et de se mettre à leur place. C'est le principe d'empathie, de s'interroger sur leurs émotions et d'être capable de les faire siennes. C'est quelque chose qu'on cultive chez les petites filles et très peu chez les petits garçons. Les petits garçons, très vite, vers 3-4 ans, mais voire même peut-être avant, on leur donne 2 émotions. Ils sont contents ou pas contents. Et pas contents, c'est la colère. C'est pas la tristesse. Ils ont le droit d'être en colère, de crier, de taper. Ça, c'est bien. Ou alors, ils sont contents et ça veut dire qu'ils sont agités, excités et qu'ils courent partout. Et donc, j'essaye, voilà, je prône le fait d'ouvrir la palette émotionnelle des petits garçons, de leur donner le vocabulaire déjà, ce qu'on donne aux petites filles et pas forcément aux garçons, et de leur faire réfléchir à leurs propres émotions, ce qui les rend ensuite capable d'identifier les émotions des autres et de se rendre compte que ce qu'ils font a un impact sur les autres.
Patrick Jean, il nous reste un peu moins d'une minute. Vous voulez réagir sur ce sujet, sur l'émotion et les petits garçons ?
Oui, moi je pense que l'idée de construire une nouvelle masculinité, c'est absurde. La masculinité se définit par le fait qu'elle est en position hiérarchique par rapport à la féminité. Donc si on veut aller vers l'égalité, il faut cesser de dire, moi j'ai 2 petits garçons et j'ai envie de leur dire, ne sois pas un homme. Ne sois pas une femme non plus, sois toi-même. Mais ne colle pas à un modèle qui va t'obliger et qui va te permettre surtout, parce que c'est extrêmement favorable, à te retrouver dans une position qui est injuste. Si tu veux être juste, si tu veux être quelqu'un de bien, eh ben essaie d'être toi-même, d'être un individu. Et puis surtout, essaie d'être respectueux et pacifique vis-à-vis des autres. Mais n'essaie pas de coller au modèle masculin et n'essaie pas d'en inventer un nouveau non plus, parce que ça, évidemment, ça ne marcherait pas.
Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les deux. Titiou Lecoq, journaliste, Patrick Jean, réalisateur. Je rappelle le titre de vos derniers livres. Titiou Lecoq, vous avez publié Libérer, le combat féministe se gagne devant le panier de linge sale aux éditions Fayard. Et Patrick Jean, vous avez écrit Les hommes veulent-ils l'égalité aux éditions Belin. Merci également à Florence Ponce, à Fanny Blechner et au service documentation de RFI pour leur aide dans la préparation de cette émission. À la réalisation, il y avait ce soir Étienne Bertin et Laurent Philippot. Merci aussi à eux. Restez avec nous dans un instant. Un nouveau journal.